Éteignez les lumières. Fermez votre porte. Décrochez le téléphone. Nuit blanche, couleur 3.
J'hallucine. T'as déjà vu un truc comme ça?
Oui.
Ouais, mais c'était pas aussi soudain.
On peut rentrer au port même s'il n'y a pas de vent.
Ouais, ouais, ouais. On a un moteur, c'est pas un problème. Seulement, c'est bizarre.
Qu'est-ce que donne le radar?
À l'écran radar, tout est clair.
Père, vous ne voyez pas le chalutier russe?
J'ai mis l'officier de transmission sur le pont, mais rien en vue, commandant.
Tenez-moi au courant.
Monsieur, regardez vos cartes. Je pense qu'on se dirige droit vers le triangle du diable.
Vous entendez, messieurs? Ce va-nu-pied croit à une vieille légende maritime.
Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, j'ai passé ma vie à étudier les mythes de l'océan, toutes les légendes et malédictions. Et je sais qu'on ne revoit pas toujours les navires qui font voile vers le triangle.
Capitaine, ce marin n'a pas toute sa tête.
Changez de cap, mon capitaine, je vous en conjure.
Je rêve, tu oses me donner des ordres, petit.
Bonjour, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle saison de Nuit Blanche. Nuit Blanche, un podcast qui vient frapper à votre porte tous les soirs de pleine lune. Un podcast réservé à ceux et celles qui préfèrent le grand frisson à la procrastination. Si vous observez le monde qui nous entoure, vous y trouverez de très nombreuses formes géométriques. On vit avec, elles sont partout autour de nous. Et parmi toutes ces représentations visuelles qui façonnent notre réalité, il y en a certaines plus magnétiques, plus énigmatiques que d'autres, comme par exemple le triangle. Le triangle, cette figure plane à trois sommets qui porte en elle depuis l'aube de la civilisation une symbolique forte.
L'esprit ne voit que ce qu'il choisit de voir. Aventurons-nous plus avant dans le bizarre.
Remarquez que Jésus et Marie semblent reliés au niveau des hanches et s'écartent l'un de l'autre comme pour délimiter un contour dans l'espace négatif qui les sépare. Léonard nous présente le calice.
Le triangle est mystique, c'est le mystère de la Sainte Trinité. En duo opposé, c'est l'étoile de David. Le triangle est ésotérique, que ce soit dans la franc-maçonnerie ou encore dans l'alchimie. Le triangle, c'est aussi l'œil de la Providence, lorsqu'il possède en son centre ou en son sommet un œil ouvert, entouré de rayons de lumière.
Qui es-tu ? Un pauvre candidat errant dans les ténèbres, qui se présente à vous de son plein gré, dûment préparé, et qui demande à être initié par tes frères au mystère et au privilège.
En situation de danger et de détresse, auprès de qui places-tu ta confiance ?
En Dieu.
Le triangle, c'est aussi la porte d'entrée vers les pyramides de l'ancienne Égypte. Elles font partie des plus belles, des plus grandes et des plus fascinantes constructions de l'Antiquité. Des merveilles du monde qui font le lien entre le ciel et la terre, entre l'univers des vivants et celui des morts. Enfin, le triangle désigne un lieu très particulier dans lequel il est préférable de ne pas s'aventurer. Comme par exemple le triangle des Bermudes. Une vaste zone géographique qui cache de nombreux mystères et phénomènes encore aujourd'hui inexpliqués. Certains sont toutefois remontés à la surface, quand d'autres se meurent dans les profondeurs océaniques. À présent que vous connaissez notre destination, nous vous laissons le choix entre continuer le voyage avec nous ou fuir sans plus attendre ce territoire bizarre dans lequel des navires se volatilisent, des avions disparaissent sans même envoyer de signaux de détresse.
Commandant, la radio est morte. Les antennes sont intactes, mais on n'est pas en ligne.
Pour vous servir, un triangle amoureux aussi platonique qu'énigmatique, Anne Flamand, Michael Marquet et Franck Pourpré.
Le triangle des Bermudes est une zone géographique imaginaire de l'Atlantique Nord. Les auteurs et les journalistes qui traitent de ces supposés mystères ne sont pas tous d'accord entre eux quant aux limites du triangle. Le plus souvent, on admet que la pointe nord se situe sur l'archipel des Bermudes. Au sud-est, La ville de San Juan, sur la côte nord de Porto Rico, délimite la deuxième pointe du triangle, et à l'ouest, c'est la ville de Miami, en Floride, qui sert de point de repère. Ainsi délimité, le triangle des Bermudes représente une zone d'1 million de kilomètres carrés. 1 million de kilomètres carrés d'océan qui aurait, selon certains, englouti plus que leur dû en bateau, en avion et même en sous-marin.
On ne comprenait pas qu'un navire aussi grand ait littéralement disparu de la surface du globe.
C'était impensable. Comment 5 de nos appareils avaient-ils pu disparaître?
C'est une des étendues d'eau les plus légendaires de notre planète.
Sous la surface des flots, les fonds marins du triangle des Bermudes présentent un profil accidenté, fait de chaînes de montagnes immergées, de failles et de fosses. L'une des fosses les plus profondes du globe se trouve d'ailleurs dans cette zone. La fosse de Porto Rico est le point le plus profond de tout l'océan Atlantique. Elle descend jusqu'à 8 km en dessous du niveau de la mer. Au nord du triangle, l'archipel des Bermudes repose, lui, sur un plateau formé par les restes d'un ancien volcan. L'île, baignée d'eau turquoise, est entourée de très nombreux récifs qui représentent autant de pièges pour les navigateurs novices. Le long de ces rivages, on trouve aussi de très nombreux brisants, des concrétions faites d'algues et de milliers de coquilles de mollusques qui peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres de haut. Ces formations sont invisibles par temps calme et elles peuvent déchirer la coque d'un bateau comme un ouvre-boîte. Les fonds marins du triangle des Bermudes recèlent encore bien d'autres curiosités topographiques, comme les trous bleus. Ce sont en fait des grottes creusées dans la roche calcaire par les pluies acides, à l'époque où cette zone se trouvait hors de l'eau. En surface, les eaux qui baignent cette région du globe sont le plus souvent paisibles. Le triangle des Bermudes fait partie d'une région géographique plus vaste, la mer des Sargasses. Cette mer ne possède pas de côte, elle est délimitée par les courants marins, le Gulf Stream, la dérive Atlantique Nord et le courant des Canaries. La particularité de la mer des Sargasses, ce sont ses calmes parfaits. Une mer d'huile que n'agite pas la moindre brise et qui rend fou les capitaines de voiliers. C'est sans compter sur les tempêtes qui traversent régulièrement la région. Pendant la saison des ouragans, de juin à novembre, les cyclones suivent une trajectoire d'est en ouest qui passe, entre autres, par le triangle des Bermudes. La zone est aussi le théâtre d'orages soudains et de vents violents qui peuvent s'avérer fatales pour quiconque se trouverait dans ce coin à ce moment-là. Le gros temps a vite fait de faire tanguer les bateaux et de malmener les avions.
Il y a trop longtemps que nous sommes prisonniers de ce triangle maudit, condamnés à l'enfer sur Terre.
Même si l'histoire des disparitions et naufrages dans le triangle des Bermudes, ou triangle du diable, comme on le nomme aussi parfois, remonte au début du 19e siècle, peut-être même, d'après certains récits à l'époque de Christophe Colomb, l'endroit sera véritablement perçu comme un lieu maudit qu'à partir des années 50. En 1952, paraît un article sur le sujet rédigé par le journaliste George Sand dans le magazine Fate. Fate, un magazine toujours édité, est entièrement dédié, depuis son premier numéro paru en 1948, aux phénomènes paranormaux.
Mais quelle sorte de chose ?
Un avion qui s'écrase. Ou alors encore, ce qui se passe maintenant ici. Des éclairs et des lueurs. Des orages subis qui apparaissent, venus de nulle part. La radio qui est muette.
Des lueurs étranges aux mains, non, voyons, c'est ce qu'on appelle une aurore boréale, c'est ça, une aurore boréale.
Et pour la radio qui est muette, il faut savoir que le champ magnétique varie et n'obéit à aucune loi par ici.
Oui, c'est exact.
C'est bien possible.
Dans ce numéro de 1952, on parle de disparition mystérieuse et George Sand revient dans un long article sur l'un des cas les plus médiatisés et dramatiques du triangle des Bermudes. la disparition du vol 19.
Un appel de détresse. Coordonnées 725.
Tu ne vas pas le croire. Dans le triangle du diable, juste au centre.
Nous recevons toujours le signal de détresse et avec la même intensité.
Nous sommes le 5 décembre 1945, dans l'après-midi, lorsqu'une escadrille de 5 avions de combat de type TBM Avenger de l'US Navy est sur le point d'effectuer un vol d'entraînement. La température est agréable en ce 5 décembre, 18 degrés au sol, le soleil est de la partie et la bise est modérée. Les conditions pour un vol sont donc idéales. Les torpilleurs partiront de la base aéronavale de Fort Lauderdale, en Floride. C'est à 14h10 que la tour de contrôle indique aux pilotes que la piste est libre. Les hélices se mettent à tourner dans un vacarme assourdissant. Il est prévu de faire une simple mission de routine, dont le parcours, en forme de triangle, prévoit de faire presque 200 km vers l'est, puis, après un premier virage, 117 km dans la direction nord-nord-ouest, puis, après un dernier virage, l'escadrille prendra la direction sud-ouest sur 193 km, afin de rentrer à la base.
Je vous protège, monsieur.
Mais à ce moment précis du décollage, ce que les membres de l'équipage ne savent pas, c'est qu'ils ne reviendront plus jamais à Fort Lauderdale.
Rouge 2, suis-moi en altitude supérieure. Prends le bombardier par la droite. Je te suis, Rouge 1.
À bord des avions, 14 hommes, plus ou moins expérimentés, dont 5 officiers. C'est le lieutenant Charles Taylor, 28 ans, qui prend le commandement de la formation ailée. C'est le plus aguerri de l'équipe. Il a derrière lui plus de 2500 heures de vol, mais il ne connaît pas parfaitement la zone du triangle des Bermudes. Charles donne ses instructions par radio aux autres membres de l'excursion. Direction les îles Bimini, situées à environ 90 km à l'est de Fort Lauderdale. Et sur place, les militaires devront s'entraîner au tir en torpillant une épave. Pendant les 1h30 de l'exercice, rien de particulier à signaler. La mission d'entraînement est donc un succès. Il est 15h15, ce 5 décembre 1945, lorsque sur le chemin du retour, des événements dramatiques vont s'enchaîner. Comme d'habitude, à la tour de contrôle de la Naval Air Station de Fort Lauderdale, on attend un message radio de l'escadrille, indiquant l'heure de retour et surtout demandant les instructions d'atterrissage. Mais ce jour-là, contre toute attente, c'est un tout autre message qu'ils vont recevoir. C'est le lieutenant Charles Taylor qui s'exprime. Voici le contenu de son message, tel que consigné par les militaires de la base.
J'appelle la tour de contrôle. Cas d'urgence. Nous avons dévié de notre trajectoire. Nous ne sommes pas certains de notre position. Nous ne voyons pas la Terre. Nous sommes probablement perdus.
Vol 19, la transmission est mauvaise. Il y a un problème. Quelle est votre altitude ?
Je suis perdu. Vous me recevez ?
C'est alors que commence, pour les 14 militaires, un dernier voyage vers l'enfer. Le lieutenant Robert Cox intercepte une nouvelle transmission radio de Charles Taylor. Il indique que, chose étrange, les compas des 5 avions sont tombés en panne et qu'ils pensent être quelque part au-dessus des Florida Keys, une longue chaîne d'îles située au sud de la Floride. Le problème, c'est que l'escadrille ne survole pas cette zone, mais une petite île au large des Bahamas. Ils sont donc à plus de 400 km de leur position supposée et se dirigent à présent vers l'Atlantique Nord, alors qu'ils pensent atteindre rapidement les côtes de la Floride.
Commandant, les transmissions ont des problèmes avec les appareils rentrants.
Quel problème ?
Des interférences dues au grain, commandant.
Appelez le météo.
À vos ordres.
Journée ensoleillée et sans nuages.
Il faut bien t'imaginer qu'à cette époque, les avions n'ont pas d'instruments électroniques, ni de GPS. Les pilotes ne peuvent se fier qu'à leur montre, boussole et éventuellement les repères visuels survolés. Hélas, grave erreur pour Charles Taylor. Il n'a pas, ce jour-ci, de montre au poignet. Et le bombardier n'en possède pas non plus sur son tableau de bord. Même si les 5 monomoteurs peuvent parcourir aisément une distance de 1780 km avec une torpille et 3750 km sans arme de défense, l'ambiance est de plus en plus tendue.
à tout moment. Je propose de voler jusqu'à la place de carburant.
Il est déjà 16h et le lieutenant Charles Taylor ne semble toujours pas comprendre qu'il va dans la mauvaise direction. Les communications avec la tour de contrôle de Fort Lauderdale sont de plus en plus mauvaises à cause de la distance.
Et nous savons qu'il est en approche, mais aucun contact n'est possible avec lui, sa radio est brouillée.
16h45, le personnel au sol tente de guider une dernière fois l'escadrille. On demande à Taylor de laisser le commandement à un de ses élèves. Il refuse d'obtempérer. Nos 14 hommes sont à présent paniqués. Les instructions de la tour de contrôle sont quasiment inaudibles. Elles se perdent dans les parasites et les conditions météorologiques sont de plus en plus mauvaises. À Fort Lauderdale, on capte tant bien que mal quelques bribes de phrases. Aidez-nous, nous sommes perdus. Les instruments de bord sont en panne.
Ça commence à souffler fortement ici. Le ciel est plein d'électricité et tout le coin a l'air bouché.
17h15. Un bref message de Taylor annonce que l'escadrille va en direction à présent de l'ouest. Il est 17h30 et le soleil se couche à l'horizon. Le piège se referme. Même si les avions ont encore assez de carburant pour voler pendant presque 3 heures, les militaires sont en danger. Perdus, au milieu de nulle part, en pleine mer. Et ils ne croisent, à leur grand désespoir, sur leur chemin, ni bateau, ni avion. À 18h, pendant une courte période, les communications s'améliorent. À la tour de contrôle, on demande à Charles Taylor de passer sur la fréquence de secours moins perturbée. Mais celui-ci refuse, de peur de perdre le contact avec les 4 autres avions de sa formation.
Puissance maximale ! Grave,
18h20, l'armée décide enfin d'envoyer des secours. Un hydravion Catalina part à la recherche des 14 hommes.
Il y a le plein dans cet appareil ? Vous avez fait le plein d'essence ?
Au lit !
Oui, monsieur.
Faites-moi démarrer ! Faites-moi démarrer vite !
Au lit ! C'est interdit de toucher aux avions !
19h27. C'est au tour de 2 autres hydravions de type Martin Mariner de décoller depuis la base aéronavale de Banana River en Floride. Ces avions ont la particularité de pouvoir se poser en pleine mer afin de récupérer éventuellement des naufragés. Le premier appareil part vers l'est, tandis que le second suit un moment les côtes de la Floride avant de mettre le cap au nord-est en direction du large. À son bord, 13 hommes, dont le lieutenant Harry Cohn. Quelques minutes après le décollage, l'officier enverra un message radio pour signaler que l'appareil rencontre un fort vent au-dessus des 6000 pieds. Ce fut le premier et le dernier message en provenance du Martin Mariner 59-225 qui lui aussi se dirige, sans le savoir, vers une mort certaine.
Parce que vous appelez ça une tempête, vous. Ça ne ressemble à rien de ce que j'ai connu.
À rien de ce qu'aucun d'entre nous a connu.
Certaines forces ne commencent que maintenant à être réellement étudiées et comprises. J'entends par la science, non la superstition, ce qu'on appelle les trous noirs, l'antimatière, l'espace courbe.
19h50, un bateau, l'USS Gaines Mill, rapporte avoir vu une énorme boule de feu provoquée par l'explosion d'un avion. C'est en effet notre hydravion qui a pris feu en plein vol. On ne retrouvera aucun survivant. À cette heure précise, le vol 19 poursuit son funeste chemin dans une nuit noire. Il erre quelque part au beau milieu de l'océan Atlantique. Charles Taylor sait à présent qu'il ne lui reste plus que quelques minutes à vivre. Il regarde une dernière fois ses coéquipiers, puis la jauge d'essence qui ne cesse inexorablement de descendre. Il tente un nouvel appel de détresse. Une fois de plus, pas de réponse. Nos hommes se savent à présent condamnés à un amerrissage forcé. La nature a gagné. La surface de l'eau se rapproche, un bruit fracassant. Et puis, plus rien. Le mauvais temps et l'obscurité mettent un terme aux recherches. Il faudra attendre le jeudi 6 décembre 1945 au petit matin pour qu'elles reprennent. L'armée mobilise en quelques heures 240 avions, auxquels viendront se joindre 18 vedettes des gardes-côtes, des yachts privés, des cargos et des appareils de la Royal Navy. Malgré cette impressionnante mobilisation, le 10 décembre 1945 au soir, l'armée américaine fera un communiqué officiel pour déclarer que les 14 hommes et les 5 avions du vol 19 sont définitivement perdus.
Je suis sérieux. Explique-moi comment ils ont pu disparaître.
Est-ce que tu peux expliquer toutes les disparitions qui se sont produites dans ce triangle? Ah, explique-moi.
Je t'ai dit ce que j'en pensais.
Oui. Le problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui croit au diable aujourd'hui.
Quand on croit en Dieu, on croit aussi au diable.
Malgré l'importance des moyens mis en œuvre, on ne retrouve rien. Même pas un petit bout de carlingue flottant à la surface de l'eau ou échoué sur une plage des Bahamas.
Ouais. Les hommes attendent une explication, eux aussi. Il nous faut une vision plus nette de tout ceci.
Dans cette nuit du 5 décembre 1945, les cinq bombardiers se sont donc volatilisés sans laisser de traces. L'endroit précis de la disparition est introuvable, comme un secret bien gardé par le triangle des Bermudes. Le vol 19 est encore aujourd'hui l'une des plus grandes énigmes de l'aviation. Erreur humaine, fatalité, ou est-ce la malédiction du triangle des Bermudes qui vient une fois de plus de frapper?
Il est temps de marchander avec l'au-delà.
L'enquête officielle, diligentée par la US Navy et contenant plus de 500 pages, laisse encore quelques questions sans réponse, même 74 ans après les faits. Comment expliquer que tous les appareils de mesure et d'orientation des cinq appareils tombent en panne en même temps? S'il est avéré d'après l'enquête que Charles Taylor n'avait pas de montre d'aviateur ce jour-là, qu'en est-il des 13 autres membres de l'expédition? Ce qui est sûr, c'est que le rapport final mentionne « cause de l'accident inconnue ». Autre question restée sans réponse. Que s'est-il réellement passé à bord du Martin Mariner qui n'a lancé aucun message de détresse avant de se transformer en boule de feu? Fasciné par cette affaire, deux hommes, John Mayer, un archéologue spécialisé dans l'aviation, et Andy Marocco, tentent inlassablement depuis plus de 25 ans de découvrir l'itinéraire exact du vol 19 et de retrouver une ou plusieurs épaves au fond de l'eau. Pour le moment, les différentes expéditions se sont toutes soldées par un échec. Si percer le mystère des disparitions de bateaux ou d'avions dans le triangle des Bermudes est une tâche complexe, tenter de comprendre et d'expliquer l'expérience vécue par l'aviateur Bruce Gernon semble tout simplement impossible. Voici à présent son histoire.
Nous avons décollé à 15 heures précises. Je volais avec mon père et Chuck Lafayette, son associé. J'avais déjà effectué le même vol une dizaine de fois avec le même appareil.
En 1970, Bruce Gernon a 23 ans. Il coule une existence paisible sur l'île d'Andros, aux Bahamas. C'est un pilote d'avion amateur, mais expérimenté. Son père est un homme d'affaires qui traite la majorité de ses affaires avec la Floride. Le 4 décembre 1970, il lui demande de l'emmener, lui et son associé Chuck Lafayette, à Palm Beach, pour une réunion quelconque. Bruce Gernon se prépare à survoler cette portion d'océan avec autant de décontraction que d'autres enfourchent un vélo. Il connaît bien le trajet et l'avion, il a déjà effectué ce vol des dizaines de fois. Après les vérifications d'usage, Bruce Gernon, son père et l'associé décollent d'Andros à 15h pile. Bruce met le cap au nord-ouest, direction la Floride, heure d'arrivée estimée, 16h20. Le temps est clair au moment du décollage, mais 10 minutes plus tard, Bruce Gernon aperçoit devant lui un petit nuage lenticulaire, environ 150 mètres au-dessus de l'eau. C'est un nuage d'orage comme on en voit souvent près des reliefs, mais c'est assez bizarre d'en rencontrer un au-dessus de l'eau et aussi bas. Bruce ne se laisse pas démonter, il met les gaz et prend de l'altitude pour passer au-dessus du nuage. Le nuage gonfle et semble le suivre. Bruce parvient à sortir de l'orage au bout d'une dizaine de minutes d'ascension ininterrompue. Il se trouve alors à 3500 mètres d'altitude et pense pouvoir bénéficier d'une accalmie. Ses espoirs sont pourtant vite déçus. En regardant derrière lui, Bruce se rend compte que le nuage grossit encore. Il met l'avion en palier, il accélère jusqu'à 360 km/h et il continue sa croisière. En arrivant au-dessus des îles Bimini, il réalise que le nuage d'orage le suit toujours. Pire, il forme un cercle autour de l'avion et se referme devant lui. Bruce est pris au piège d'un anneau nuageux d'une cinquantaine de kilomètres de diamètre et il ne peut passer ni au-dessus ni en dessous.
Revenez au cap 350.
La situation semble critique pour les passagers du petit Beechcraft Bonanza A36. Mais alors qu'il se demande comment il va faire pour s'en sortir, Bruce aperçoit une trouée dans les nuages. C'est un tunnel de ciel clair qui semble mener à l'extérieur de la perturbation. Bruce aperçoit même le ciel bleu à son extrémité. Sans plus réfléchir, il met plein gaz et s'y engage. Alors qu'il se trouve dans le tunnel, un vortex de brouillard se forme autour de l'avion. Des langues d'air humide lèchent la carlingue, elles semblent s'enrouler autour de l'appareil. Bruce Gernon éprouve une sensation bizarre, comme s'il était en apesanteur, et en même temps en aquaplaning. Il est à la fois en suspension et en train de glisser vers l'avant. Le père de Bruce essaye de bidouiller les instruments électroniques pour connaître leur position, mais les instruments déconnent et ils n'indiquent plus rien. La boussole tourne lentement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La tête de Bruce est vide, il ne pense plus à rien, il est entièrement concentré sur la nécessité de garder le cap et de suivre ce tunnel jusqu'à la sortie de l'orage.
Miami, ici le 136 qui appelle, répondez. Miami, vous entendez, ici le 136. Alors, vous répondez oui ou non?
On a perdu le contact.
Finalement, Bruce parvient à s'échapper du nuage, mais le brouillard colle à l'avion. Le pilote est totalement désorienté. Sans visibilité, sans instrument, il est perdu et ne parvient pas à évaluer sa position. Son père contacte alors le centre aérien de Miami pour leur demander de l'aide. En fonction de sa vitesse et de la durée du vol, Bruce Gernon pense être au-dessus de l'océan, à 130 km à l'est de Miami.
Miami, ici le 136 qui appelle, répondez.
Mais le contrôleur aérien ne trouve pas trace de l'appareil sur son radar. En tout cas, pas à cet endroit-là.
Qu'est-ce que donne le radar?
À l'écran radar, tout est clair.
Clair?
J'ai mis l'officier de transmission sur le pont, mais rien en vue, commandant.
À bord, l'angoisse du pilote et de ses deux passagers épaissit de façon palpable l'air de l'habitacle. L'avion sort du brouillard et la radio se met à hurler. Le contrôleur aérien vient de repérer l'aéronef juste au-dessus de Miami Beach. Bruce Gernon lui répond que c'est impossible. Il ne vole que depuis 33 minutes. Mais il jette un œil vers le sol et voit effectivement Miami Beach. Dans le cockpit, c'est la consternation. L'avion de Bruce semble avoir parcouru 80 km quasi instantanément. Il atterrit finalement sans plus d'encombre à Palm Beach, avec une demi-heure d'avance sur l'horaire prévu. Le vol n'aura duré que 43 minutes, au lieu d'une heure et quart, pour parcourir plus de 400 km. Étant donné les performances du Beechcraft Bonanza, l'avion que pilotait Bruce Gernon, ça semble tout simplement impossible.
Vous pouvez expliquer, vous, une chose pareille?
Non. Mais nous savons tous que la relativité du temps existe. C'est un phénomène qu'Einstein a démontré.
En théorie. Si je vous suis bien, il suffit d'essuyer une bonne tempête et paf, nous voilà redevenus plus intelligents qu'Einstein.
Depuis que cette aventure lui est arrivée, le 4 décembre 1970, Bruce Gernon n'a eu de cesse de chercher une explication au phénomène qu'il a rencontré. Il a finalement développé sa propre théorie, baptisée le brouillard électronique. D'après lui, c'est ce brouillard étrange qui a détraqué ses instruments et qui l'a transporté dans l'espace-temps. Il pense d'ailleurs que le même phénomène explique les autres disparitions d'avions et de bateaux dans le triangle des Bermudes.
Les nuages génèrent de l'antimatière, génèrent des champs électriques. Et brusquement, le voltage et l'ampérage atteignent un seuil critique. Lorsque tous ces facteurs surviennent dans un ordre précis, ils engendrent un orage d'une puissance extraordinaire.
Bruce Gernon n'est pas le seul à avoir rapporté une expérience bizarre. Six ans plus tôt, en 1964, un pilote du nom de Chuck Wakely a lui aussi rencontré un phénomène qu'il n'explique pas. Alors qu'il pilote un charter entre Nassau et la Floride, son appareil se retrouve entouré d'une lumière mystérieuse. Plus effrayant encore, il croit voir que les ailes de son avion deviennent translucides. Les instruments semblent devenir fous, la boussole cesse de fonctionner, la lumière devient aveuglante. Tout à coup, l'appareil change de direction, sans qu'il puisse intervenir. Et puis, aussi subitement qu'elle est apparue, la lumière s'évanouit et les instruments se remettent à fonctionner normalement.
Tu vois comment il se développe ? On a 12 rayons gamma.
La courbe des barres continue de grimper.
L'énergie s'accroît à l'approche des orages.
Ces cellules sont étendues. Elles se chevauchent. Je me dirige droit vers ce que j'appelle une selle. Deux orages. Généralement, le radar indique une faible dépression sans activité. Mais parfois, il y a de fortes turbulences.
Il est difficile de savoir quel crédit accorder aux histoires de Bruce Gernon et de Chuck Wakely. Ce qui est certain, c'est que, quoi qu'il leur soit arrivé, eux ont pu finalement rentrer à bon port. Mais tous n'ont pas eu cette chance.
C'est un code. Vous pouvez le déchiffrer ? Évidemment, c'est l'enfance de l'art.
Et pourquoi ?
Parce que c'est du morse qu'on apprend à l'école navale. De la brève longue.
Dans ce vaste champ d'épave qu'est le triangle des Bermudes, se trouve quelque part la carlingue, ou en tout cas ce qu'il en reste, du Star Tiger. Star Tiger, c'est le nom donné à un Avro Tudor 4, un avion de ligne propulsé par quatre moteurs Rolls-Royce de la British South American Airways. Leur slogan publicitaire est « Fly with the Stars ». Et presque tous leurs avions portent des noms commençant par le mot « Star ».
Il y a cette saloperie d'orage entre nous et la côte.
Bien, c'était exactement la même chose, un peu avant qu'on ne s'écrase. Il y a eu un orage. Et la radio a perdu le contact.
Il n'y a pas eu le moindre orage par ici depuis au moins une semaine.
Allez-y, continuez. Dites-nous ce qui s'est passé.
Le tout premier exemplaire, le Star Punter, a volé pour la première fois le 9 avril 1947. Quelques mois plus tard, le 4 novembre, c'est au tour du Star Tiger de faire son vol d'essai. Le 27 janvier 1948, notre avion décolle de l'aéroport d'Heathrow à Londres. Il est prévu de faire une première escale à Lisbonne, puis Santa Maria dans les Açores, pour faire un ravitaillement en essence. Ensuite, direction l'île de Saint-David, dans les Bermudes, puis Kingston. Et enfin, pour terminer ce long périple, direction Cuba.
Commandant, la radio est morte. Les antennes sont intactes, mais on n'est pas en ligne.
À son bord, 25 passagers. Des Anglais, bien sûr, mais aussi des Tchécoslovaques et des Suisses. Il y a même un passager de marque, Sir Arthur Cunningham, ancien commandant en chef de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale.
La mer était un vrai miroir. Ensuite, le pilote a contacté Miami. Tout à coup, nous avons été enveloppés par un violent orage. Et le pilote a perdu le contrôle de l'appareil. Il a essayé d'envoyer un appel de détresse, mais la radio était morte. Et alors, l'avion s'est écrasé.
Le Star Tiger quitte Santa Maria à 15h34, heure locale, le 29 janvier 1948. L'atterrissage est prévu à 5h du matin. 3 heures plus tôt, l'avion fait face à des vents violents, mais le capitaine Brian McMillan ne semble pas inquiet. Les passagers dorment profondément, quand d'autres tentent de trouver le sommeil. Réveillé sûrement par l'étrange chorégraphie que l'avion fait, qui tente de garder le cap malgré les bourrasques de vent. Il est 3h04 très précisément quand Bob Tuck, l'opérateur radio du Star Tiger, demande un retour radio aux Bermudes pour connaître la trajectoire à maintenir et confirmer la position de l'avion. C'est J.B. Richards, opérateur de la garde aérienne à Kingley Field, sur l'île de David aux Bermudes, qui donnera toutes les informations nécessaires. Dans la cabine de pilotage du Star Tiger, on commence à se détendre. Le vol touche bientôt à sa fin et on pense déjà à une bonne douche et un copieux petit déjeuner.
Nous ne captons absolument rien sauf des émissions codées sur la bande des 200 mètres. Mais partout ailleurs, c'est le silence total.
Il est presque 4h du matin quand J.B. Richards tente à nouveau de contacter le Star Tiger. Mais cette fois-ci, personne ne répond. Richards n'est pas plus inquiet, sachant que l'avion est proche de sa destination finale. Il tente un nouveau contact à 4h15, mais silence radio.
Réponds, bon Dieu !
Qu'est-ce qui se passe?
Franchement, je n'en sais rien.
Richards commence à avoir un mauvais pressentiment et tente un troisième contact, cette fois-ci à 4h40 du matin. Dans le haut-parleur, aucune voix ne se fait entendre. Cette fois-ci, la tour de contrôle donne l'alerte. Tout comme le vol 19, le Star Tiger vient de disparaître dans le triangle des Bermudes.
Je vois plus d'appareil.
Quoi?
J'ai plus d'image au balayage, il a disparu de mon scope.
Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a disparu!
Le 30 janvier 1948, une dépêche de presse annonce la perte d'un avion au nord-est des Bermudes.
Est-ce que vous avez volé longtemps avant l'accident?
Peut-être 20-25 minutes.
Ce n'est que le 12 avril 1948 qu'une enquête est ouverte à Londres. Le 21 août de la même année, Lord Pakenham, ministre de l'aviation civile, présente son rapport et en voici l'extrait le plus édifiant.
En l'absence de tout élément de preuve fiable quant à la nature ou à la cause de l'accident du Star Tiger, la Cour n'a pas été en mesure de faire plus que de suggérer des possibilités dont aucune n'atteint le niveau de probabilité. Ce qui s'est passé dans cette affaire ne sera jamais connu et le destin du Star Tiger reste un mystère non résolu.
Dans le triangle.
Comment ça, dans le triangle?
Le triangle du diable. C'est le nom qu'on lui donne. Enfin, que ceux qui savent lui donnent.
Pourquoi?
Des choses étranges se passent ici.
Alors, prêtre, vous n'y croyez pas.
Aujourd'hui encore, le mystère reste entier. Et ce n'est pas le seul. Un an plus tard, le 17 janvier 1949, le Star Ariel, un autre Tudor 4 de la British South American Airways, disparaît lors d'un vol entre les Bermudes et Kingston, en Jamaïque. À son bord, 7 membres d'équipage et 13 passagers, dont les affaires et les corps n'ont jamais été retrouvés. Le 21 décembre 1949, le rapport final de l'enquête stipule ceci. Par manque de preuves, la cause de l'accident est inconnue. Les coïncidences, les fautes à pas de chance, peuvent-elles aussi expliquer les deux cas suivants?
Mais ça recommence!
Croyez-vous qu'on puisse le distancer?
On peut même se demander s'il est raisonnable de vouloir essayer de le faire.
À 6 minutes de l'interception.
Amenez le cap au 1-8-0.
Cap au 1-8-0.
De flanc, avant, toutes.
Maintenez le cap au 1-8-0.
Cap au 1-8-0.
De flanc, avant, toutes. Machine à 125 tours.
De flanc, en avant, toutes. Machine à 125 tours.
28 décembre 1948, un DC-3 de la compagnie Airborne Transport disparaît dans la nuit alors qu'il approchait de Miami. 32 passagers et membres d'équipage volatilisés et aucune épave retrouvée. Octobre 1954. Un super constellation de l'US Navy disparaît. On perd la trace de l'avion à environ 650 km des côtes américaines. Les 52 occupants du vol 441 n'ont jamais été retrouvés. Pas plus que l'avion d'ailleurs. Le bureau chargé de l'enquête conclut.
Le vol 441 a rencontré une force soudaine et violente qui ne pouvait pas être contrée par un effort humain et qui rendit l'avion incontrôlable. L'origine de cette force est inconnue.
Enfin, parmi les dizaines de disparitions inexpliquées répertoriées et qui défient l'entendement, il y a celle d'un bombardier, le 22 février 1978, un Grumman KA-6 de l'armée américaine. À son bord, le lieutenant Paul Smith et le copilote Richard Leonard. C'est à 50 km du porte-avions USS Kennedy que les contrôleurs aériens à bord du bâtiment reçoivent un message radio inquiétant. Le copilote, Richard Leonard, signale que quelque chose ne va pas. Et puis, plus rien.
Combien d'appareils avez-vous encore en vol ?
Plus qu'un, commandant. Notre petit bleu Stanton.
Faites-le apponter au plus vite, je veux me dégager du grain qui arrive.
Bon, très bien, je transmets. Il veut l'apponter d'urgence. Rappelle Corsair.
Corsair 412.
Priorité aéro, contactez partout.
Moyen Corsair 412.
Alors que l'appareil vole à 4300 mètres d'altitude, il disparaît soudainement des radars. On ne retrouvera ni l'avion, ni ses deux occupants.
Intervention pour avion en détresse.
Intervention pour avion en détresse.
Cap stable.
Cap stable.
Passerelle centrale, récupération.
Oui, commandant.
Où est l'appareil ?
Bah, je ne le vois pas, commandant.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le triangle des Bermudes est connu pour soustraire des avions de la surface du globe, les avalant sans prévenir et sans qu'on puisse retrouver un morceau de carlingue ou de siège éjectable. Mais depuis bien plus longtemps encore, les bateaux semblent eux aussi soumis aux caprices de cette région du monde. Ce n'est pas étrange que des bateaux disparaissent. La navigation est une activité dangereuse, en particulier dans des zones sujettes aux colères de la météo. Ce qui est étrange, en revanche, c'est que des navires proprement gigantesques disparaissent sans laisser de traces.
309 personnes ont perdu la vie lors de la disparition de l'USS Cyclops. Ce jour-là, mon grand-oncle, Lawrence Merkel, était pompier à bord du navire.
La plus célèbre de ces disparitions concerne l'USS Cyclops, un transporteur de marchandises de la marine américaine. Le Cyclops a disparu en mars 1918 avec, à bord, 306 hommes d'équipage. C'est la plus lourde perte hors combat de la marine américaine à ce jour, ce qui explique que l'événement ait durablement marqué les esprits.
Le triangle du diable. Leur dernier vaisseau s'embrasait sous mes yeux.
L'USS Cyclops est inauguré en 1910. C'est un énorme entrepôt flottant. Le navire jauge 19 000 tonnes pour 165 mètres de long. À l'époque, c'est le vraquier le plus grand et le plus rapide de la marine américaine. Depuis que les États-Unis sont entrés dans la Première Guerre mondiale, en avril 1917, le USS Cyclops est affecté au transport de charbon. Sa mission, ravitailler les navires de sa propre flotte ou des flottes alliées en combustible, et ce, en pleine mer. Pour accomplir cette tâche, l'USS Cyclops a été placé sous le commandement du capitaine George Worley. La personnalité même de Worley est digne d'un roman d'espionnage. L'homme s'appelle en réalité Johann Friedrich Wichmann. Il est né en 1862 dans la région d'Hanovre, en Allemagne, et a immigré illégalement aux États-Unis en 1878. C'est peu de temps après qu'il change son nom en Worley. Il commence sa carrière américaine en tant que tenancier de saloon dans la baie de San Francisco, avant de devenir capitaine pour la marine marchande. Il se charge de toutes sortes de cargaisons et s'adonne aussi, par la bande, au trafic d'opium.
Le boucher des océans.
Lui ? Non, non. Fort heureusement, il est mort. Plus mort que mort. Son navire a coulé.
Oui, dans le triangle. Il en a après vous. C'est un mort qui a des choses à raconter.
Travailler avec Worley n'est pas une promenade en mer un jour d'été. Les équipages qui ont opéré sous ses ordres décrivent un capitaine tyrannique et colérique, qui n'est pas sans rappeler William Bligh, le très détesté capitaine du HMS Bounty. George Worley aime brutaliser ses hommes, pour des raisons mineures. Il fait régner la terreur à bord, et il va même jusqu'à exécuter l'un des prisonniers placés sous sa garde. Il y a aussi de quoi se faire du souci quant à sa santé mentale. Des hommes rapportent qu'il lui arrive d'arpenter la passerelle en sous-vêtements et chapeau melon.
Le soleil se lève et votre heure est venue.
En janvier 1918, l'USS Cyclops est chargé de ravitailler en charbon des navires britanniques stationnés dans les eaux du Brésil. Une fois sa mission accomplie, il met le cap sur Rio de Janeiro, où il doit récupérer une cargaison de manganèse, un minerai indispensable en temps de guerre, puisqu'il permet de produire des pièces d'armement. Le 16 février 1918, le Cyclops et sa cargaison quittent le Brésil pour les États-Unis. Destination Baltimore, Maryland, sans escale. À son bord se trouvent 306 passagers et membres d'équipage. Outre le capitaine Worley, qu'on a déjà évoqué, l'équipage se compose de très nombreux immigrés allemands et d'Américains d'origine allemande. On recense aussi 3 marins accusés de meurtre et 2 fusiliers marins déserteurs. Le Cyclops embarque également un hôte de marque, Alfred Louis Moreau Gottschalk, ancien consul général des États-Unis au Brésil. Comme le capitaine Worley, lui aussi est ouvertement pro-allemand, ce qui lui vaut une haine cordiale de la part du reste des passagers. Le voyage de retour vers Baltimore devait se dérouler d'une traite, mais le vraquier fait finalement escale à Bridgetown, à la Barbade. Bien qu'il soit déjà surchargé par sa cargaison de 11 000 tonnes de manganèse, quand sa capacité maximale de transport est de 8 000 tonnes, il embarque encore du charbon et des vivres. Il repart de la Barbade le 4 mars, arrivée prévue à Baltimore le 13.
Commandant sur la passerelle.
Le central opération a un contact surface, gisement 350 degrés, 130 nautiques, commandant.
Identifiez le contact surface.
À vos ordres.
Lancez la première alerte.
Pourtant, personne n'a revu le transporteur après son départ de la Barbade. Un jour après avoir levé l'ancre, il pénètre dans les eaux les plus profondes du triangle des Bermudes et disparaît. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'a jamais émis aucun message de détresse. Certes, en 1918, la technologie de communication par radio est balbutiante, mais elle existe. Et dans les messages échangés jusque-là avec le Cyclops, rien n'indique que le navire ait eu un problème. Dès le 13 mars 1918, la marine américaine lance la plus grande opération de recherche jamais entreprise jusque-là. Tout ce qui flotte et qui est disponible, du bateau de pêche à la frégate, est réquisitionné pour fouiller la zone où l'USS Cyclops est supposé avoir disparu.
C'est inutile, nous allons mourir. Je le sais.
On ne retrouvera pourtant pas une miette du bateau. Ni morceau de coque, ni trace de l'équipage, ni même un bout de canot de sauvetage.
Ce n'était pas un petit navire. Il mesurait 165 mètres de long. À l'époque, c'était un très gros bateau.
Immédiatement, l'événement connaît un retentissement médiatique énorme. Les gens ne comprennent pas qu'un si gros bateau puisse disparaître sans laisser de traces. Dans les journaux de l'époque, toutes les explications sont envisagées, même les plus farfelues. Un journal de Washington DC raconte que des pirates ont pris le contrôle du bateau et qu'il navigue désormais sur l'Amazone. Dans un autre journal, on évoque la possibilité que le Cyclops ait été la victime de monstres marins ou d'une pieuvre géante.
Qu'il sache que je contemplerai encore le soleil et que ce jour-là... Il aura rendez-vous avec la mort.
Les hypothèses les plus populaires et les plus crédibles aussi ont trait au conflit avec l'Allemagne. On pense que le navire aurait pu être coulé par un sous-marin allemand ou par une mine. D'autres envisagent la thèse de la trahison. Le consul Gottschalk et le capitaine Worley auraient conspiré pour livrer le Cyclops à l'Allemagne. Après la fin de la guerre, les archives militaires allemandes seront examinées afin d'étayer l'une ou l'autre de ces hypothèses. En vain, les noms de Worley ou de Gottschalk n'apparaissent nulle part, ce qui écarte la thèse de la trahison. Et en mars 1918, aucun sous-marin allemand ne croisait dans la région, ce qui semble exclure l'hypothèse d'un naufrage à la suite d'une attaque de l'ennemi.
La tempête est passée. Par chance, le signal de détresse fonctionne. Les gardes-côtes doivent déjà être en route.
La disparition du Cyclops a pendant très longtemps constitué un parfait mystère. Comment un bateau aussi grand, 165 mètres de long, a-t-il pu disparaître de la surface des eaux sans laisser aucune trace? La commission d'enquête de la marine envisage toutes les possibilités. Mutinerie, surcharge du bateau à cause de sa cargaison, naufrage au cours d'une tempête qui n'a pas été relevée par les instruments de mesure de la météo. Aucune des hypothèses envisagées n'est réellement convaincante. Dans un documentaire de 2014 pour la chaîne National Geographic, une nouvelle hypothèse est proposée. Le Cyclops aurait été victime d'une combinaison d'événements funestes. Marvin Barash, qui témoigne dans le documentaire, est l'auteur du livre USS Cyclops. Il est aussi hanté par le souvenir de son grand-oncle, Lawrence Merkel, qui était pompier à bord du navire. Marvin Barrage pense avoir identifié un défaut de conception du Cyclops. C'était un bateau à fond plat, particulièrement sujet aux roulis, pouvant atteindre jusqu'à 50 degrés. Ce défaut aurait rendu le Cyclops particulièrement vulnérable aux vagues scélérates, qui, comme on le verra plus loin, constitue un danger rare, mais bien réel, pour quiconque navigue dans le triangle des Bermudes.
Il y a trop longtemps que nous sommes prisonniers de ce triangle maudit, condamnés à l'enfer sur Terre.
Un triangle des Bermudes qui a des airs de magicien. Il fait disparaître des avions de ligne, d'énormes charbonniers de la marine américaine. Rien ne semble impossible à réaliser. Le tour de prestidigitation est parfait et connaît des variantes toujours plus effrayantes. Le SS Marine Sulphur Queen est un pétrolier de type T2. Ces énormes navires, citernes de 160 mètres de long, étaient utilisés dans les années 40 et 50 pour transporter du mazout, du diesel, de l'essence et du pétrole brut. Les États-Unis vont en construire plus de 800 pendant la Seconde Guerre mondiale afin de ravitailler les navires militaires américains. Dans la course au gigantisme, ces supertankers de métal sont visuellement très impressionnants. Certains ont fait du commerce pendant plus de 40 ans. Au tout début de son histoire, en mars 1944, le SS Marine Sulphur Queen porte un tout autre nom. C'est le SS Esso New Haven. Il a été construit par la Sunship Building et la Dry Dock Company à Chester, en Pennsylvanie. Comme ses frères, ce bâtiment de 7500 tonnes est destiné à transporter des produits raffinés, tâche qu'il accomplira jusqu'en 1960. On va ensuite l'affecter à une toute autre mission, encore plus dangereuse, transporter sur les océans du soufre liquide. Mais avant de reprendre la mer, on va le placer en cale sèche dans le Maryland afin de procéder à de profondes modifications techniques. On enlève les parois transversales des différentes citernes pour former un réservoir indépendant de 93 mètres de long pour 10 mètres de hauteur. Il peut contenir dans ses quatre compartiments plus de 15 000 tonnes de soufre fondu. Pour répondre aux normes de sécurité du Bureau américain de la marine marchande, on crée un espace vide tout autour de cette immense cuve afin de la rendre étanche et d'avoir un rempart supplémentaire en cas de fuite. Et puis, on installe un système de ventilation efficace, sans oublier un chauffage puissant afin de maintenir le soufre en fusion à une température constante de 255 degrés. Ainsi transformée, notre reine du soufre, fraîchement acquise par la Marine Transport Company de New York, va pouvoir débuter une nouvelle vie avec un nouvel équipage.
Donnez-leur 25 nœuds devant sur le pont.
À vos ordres. En avant, toutes.
En avant, toutes.
Salle des machines, 100 tours minute.
Salle des machines, 100 tours minute. Ici, passerelle de commandement, avant toutes, 100 tours.
Le bateau va faire de nombreux voyages, sans aucun incident majeur, entre la grande usine de soufre près de Beaumont, construite par la Texas Gulf Sulphur Company, et divers ports de la côte est des États-Unis. Ce 2 février 1963, à Beaumont justement, le SS Marine Sulphur Queen s'apprête, avec ses 39 membres d'équipage, à faire son 63e voyage avec une cargaison de soufre pesant très exactement 15 260 tonnes. Ce 63e périple est un peu particulier, car ce sera le tout dernier. Il est 18h30 quand on entend au port le puissant moteur turbo-électrique de 7200 chevaux s'activer. Deux jours plus tard, près de la Floride, un membre de l'équipage envoie un message radio indiquant la position du navire qui se trouve dans le golfe du Mexique, à environ 320 km au large de la Floride, mais surtout aux portes du triangle des Bermudes. Il est prévu que le navire arrive le 7 février à Norfolk, dans l'état de Virginie.
Ça n'empêche pas que beaucoup de gens prétendent que le triangle est le repère du diable. Et quand vient l'heure de mourir pour celui qui y passe, Satan vient essayer de le tenter.
Ce message du 4 février est important, car c'est le tout dernier capté par les gardes-côtes et ce n'est pas un SOS. Tout semble donc sous contrôle et rien ne laisse présager le drame qui va bientôt arriver. Les jours passent et personne ne semble vraiment s'inquiéter de la soudaine disparition du SS Marine Sulphur Queen qui n'est toujours pas arrivé à destination. Fait consternant, ce n'est pas l'armateur qui va remarquer la perte du cargo, ni même la Texas Gulf Sulphur Company, mais un courtier, car l'un des matelots qui boursicotait avait passé un ordre avant l'appareillage à Beaumont. L'établissement avait donc exécuté l'ordre et câblé la confirmation à son client, qui, chose étrange, ne donnait plus signe de vie. C'est grâce à cette absence de réponse que l'alerte est donnée. À 8h, le 8 février 1963, les gardes-côtes, avec l'aide de la marine et de l'armée de l'air, lancent une vaste opération de recherche sur la route du navire reliant Beaumont à Norfolk.
Mayday, 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 mayday. Position actuelle, position actuelle. Demandons assistance immédiate. À vous, à vous, à vous.
Du 8 au 13 février, on met sur pied 83 expéditions maritimes et aériennes. Mais les résultats sont nuls. On ne retrouve aucune trace du Sulphur Queen. 14 février, jour de la Saint-Valentin. Les familles reçoivent un télégramme laconique. Les recherches sont interrompues. Le navire est considéré comme perdu. 20 février 1963. Contre toute attente, un petit navire de la marine américaine retrouve un gilet de sauvetage et quelques débris au large des îles Keys qui se trouvent au sud de la Floride. Un peu plus tard, c'est au tour d'une bouée orange sur laquelle est inscrite le nom du supertanker de faire son apparition. Puis, d'autres gilets de sauvetage viendront. Une chemise aussi, un morceau de rame, un bidon d'essence et une corne de brume. Et puis c'est tout.
Y a quelqu'un ?
Les gardes-côtes expédient le matériel à Washington. Les experts du gouvernement ne tardent pas à rendre leur verdict. Des entailles dans deux des gilets de sauvetage indiquent une attaque de poissons prédateurs, tels que des requins. Par contre, pas de traces d'incendie ou d'explosion sur les débris analysés. Suite à ces découvertes inespérées, les recherches reprennent de plus belle. On envoie au sud de la Floride 7 navires et 48 avions. On inspecte une vaste zone maritime couvrant près de 100 000 km². Mais l'espoir laisse vite place à la désillusion. On ne retrouve pas de corps et encore moins de survivants.
C'est pas vrai, ils sont passés où ? Est-ce qu'on sait où on va d'abord ?
Ou alors c'est au petit bonheur la chance.
14 mars 1963, les recherches sont donc définitivement suspendues. L'épave du navire et ses 39 membres d'équipage n'ont jamais été retrouvés. Voici les conclusions officielles de l'enquête. Elles ont un goût de déjà vu et de déjà entendu.
En l'absence de survivants et de morceaux d'épave, les causes exactes de la disparition du Marine Sulphur Queen ne peuvent être déterminées.
Explosion de soufre, attaque de l'armée cubaine, rupture soudaine de la coque. Tangage, une fois de plus, le triangle des Bermudes a frappé, ajoutant le nom du Sulphur Queen à la longue liste des navires disparus dans cette zone décidément pleine de mystères.
C'est de la haute trahison. On l'enferme !
Cap sur le triangle !
Les deux cas de disparition que nous venons d'évoquer posent à eux seuls de nombreuses questions. Mais ce qui est frappant dans le cas du Triangle des Bermudes, c'est que ces histoires sont loin d'être des cas uniques. Depuis la fin du XVIIIe siècle, on recense un nombre impressionnant de bateaux ayant disparu sans laisser de traces, et sans que cette disparition puisse s'expliquer par la météo, les conditions difficiles de navigation ou la piraterie.
Les pirates avaient infesté les mers depuis des générations. Autant la vie à mon père et à son père avant lui. Je fis donc serment d'éradiquer cette peste une fois pour toutes. Et c'est ce que je fis en détruisant des douzaines de navires ennemis.
Le SS Poète est l'un de ces bateaux qui s'est mystérieusement volatilisé. Le 24 octobre 1980, à 1h20 du matin, il quitte le port de Girard Point en Pennsylvanie, chargé d'une cargaison de maïs à destination de l'Égypte. La météo n'est pas très bonne, mais ce n'est pas vraiment un problème pour un navire de sa constitution. 160 mètres de long pour un tonnage de 11 000 tonnes et la capacité de transporter 7 600 tonnes de marchandises. Le même jour, le 24 octobre, peu avant minuit, l'un des 34 membres d'équipage se sert de la radio de bord pour appeler sa femme. Ce sera la toute dernière communication reçue du SS Poète. Après ça, plus personne n'entendra jamais parler de ce navire. Début novembre, les propriétaires du bateau, inquiets de ne plus avoir de nouvelles, vont contacter les gardes-côtes. Ceux-ci vont fouiller plus d'un million de kilomètres carrés d'océan, mais sans succès, avant d'abandonner les recherches au bout de 11 jours.
Appel aux équipes de sécurité, à vos postes immédiatement. Signal de détresse enregistré. Je répète, appel à toutes les équipes de sécurité, à vos postes immédiatement. Signal de détresse enregistré. Appel à toutes les équipes de sécurité.
Ce qui est surprenant avec la disparition du SS Poète, c'est qu'elle intervient en 1980, à une époque où la technologie a progressé et où il est normalement impossible de perdre toute trace d'une embarcation. Pourtant, tout n'a pas fonctionné comme prévu dans le cas du SS Poète. Le navire n'a envoyé aucun message de détresse, alors qu'on l'a vu, sa radio fonctionnait très bien. Autre détail bizarre, le bateau était équipé d'une balise de détresse programmée pour émettre un signal et indiquer sa position dès qu'elle rentre en contact avec l'eau salée. Or, la balise n'a jamais émis aucun signal et elle n'a pas été retrouvée. Aujourd'hui, on n'a toujours pas retrouvé de traces du SS Poète, ni de ses 34 membres d'équipage. Certains pensent que le bateau a été victime d'une vague scélérate, comme le USS Cyclops. Mais depuis 2006, une nouvelle hypothèse, qui fleure bon le complot, est évoquée. Certains pensent que la vraie destination du SS Poète n'était pas l'Égypte, mais l'Iran. Le navire aurait fait partie d'une mission secrète, dans le cadre d'une livraison d'armes au régime de Téhéran. Mais la mission aurait mal tourné, le navire aurait été capturé et plus tard, détruit.
Un appel de détresse. Coordonnées 725.
On ne va pas le croire. Dans le triangle du diable, juste au centre.
Le cas d'un autre bateau, le Witchcraft, est représentatif de la vitesse à laquelle les choses peuvent mal tourner dans le triangle des Bermudes. Le 22 décembre 1967, Dan Burak, le propriétaire du Witchcraft, invite un prêtre, le père Pat Hogan, à profiter de son bateau pour admirer les illuminations de Noël de Miami depuis le large. Le bateau est amarré à une bouée, à peine à 1 mille de la côte. Pour une raison inconnue, le capitaine appelle les gardes-côtes et se signale en difficulté, sans en indiquer la raison. Il donne sa position exacte. Les gardes-côtes dépêchent une embarcation de secours et ils sont sur place à peine 19 minutes plus tard.
On va bientôt plus pouvoir le contrôler.
Pourtant, ils ne trouveront trace ni du Witchcraft, ni du père Hogan, ni de Dan Burak.
Il faut descendre les voiles tout de suite.
Mon père, vous voulez tenir la barre et maintenez-vous face au vent.
Oui.
Dans le triangle des Bermudes, il arrive aussi que les bateaux soient retrouvés, mais que ce soit l'équipage qui s'est volatilisé. On recense de très nombreux cas d'embarcations retrouvées en parfait état, mais sans personne à bord. Le premier incident de ce genre concerne le Rosalie, un navire de commerce battant pavillon français. Le Rosalie est retrouvé en mars 1840, voile levée et cargaison intacte. Mais à bord, plus personne, à l'exception d'un canari.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Pareil pour le Freya, un trois-mâts allemand retrouvé en octobre 1902, en parfait état, mais sans personne à bord. On peut aussi citer le cas du Connemara 4, un yacht retrouvé abandonné en septembre 1955. À chaque fois, ces bateaux ont été retrouvés intacts, sans trace de sang ou de lutte à bord, leur cargaison intouchée, ce qui exclut les actes de piraterie.
Enfin, les mers étaient pures. Leur maudit drapeau ne souillerait plus jamais les flots.
La plupart du temps, ils n'ont pas envoyé de message de détresse et la mer était calme. Dans le cas des voiliers, on peut imaginer qu'un coup de vent subi ait fait suffisamment giter le navire pour envoyer son équipage par-dessus bord. Mais comment expliquer la disparition subite des passagers d'un yacht, retrouvé en parfait état de fonctionnement, avec tout son équipement de sauvetage?
Monsieur, il y a quelque chose à la surface.
Navire à tribord!
Ce n'est pas un navire, monsieur. C'est une épave.
Après vous avoir relaté une petite partie des événements étranges du Triangle des Bermudes, nous allons maintenant nous pencher sur les différentes explications.
Nous recevons toujours le signal de détresse et avec la même intensité.
Ils sont nombreux et nombreuses, tout comme vous, à se demander ce qui a bien pu se passer depuis plusieurs siècles dans le Triangle des Bermudes. Pour qu'autant d'enquêtes officielles sur des disparitions soudaines de bateaux et d'avions dans le secteur se terminent toutes par ces deux mots, origine inconnue.
Ce bateau a déjà suffisamment tué.
Il n'en tuera plus d'autres. Vous pensez que parce que on appelle cet endroit le Triangle du Diable, le diable est responsable de tout ce qui s'y passe, c'est ça, hein?
Il n'y a aucune autre explication à ce qui s'est passé ici.
Il y a des journalistes, il y a des enquêteurs amateurs, des historiens, des explorateurs de fonds marins, des réalisateurs de documentaires, des scientifiques et des ufologues aussi. Chacun y va de son hypothèse, de sa théorie. En voici quelques-unes que l'on va vous soumettre. Soumettre à votre jugement en commençant par les perturbations électromagnétiques. Souvenez-vous, peu avant la disparition des 5 Avengers du vol 19 en 1945, un message radio mentionnait que les compas des 5 avions étaient tombés en panne quasiment au même moment. Et si, dans cette zone de l'océan Atlantique, le champ magnétique terrestre était perturbé au point d'affoler les instruments de bord?
Et pour la radio qui est muette, il faut savoir que le champ magnétique varie et n'obéit à aucune loi par ici.
Oui, c'est exact. C'est bien possible.
Hypothèse possible. La région est souvent traversée par ce qu'on appelle des orages magnétiques. Des orages générés par l'interaction du vent solaire avec notre atmosphère et qui perturbent le champ magnétique terrestre. Ils peuvent durer jusqu'à 48 heures. Dans ce cas précis, les communications radio et les instruments de navigation sont également fortement perturbés. Autre phénomène invoqué par les spécialistes de la région pour donner une explication à toutes ces disparitions, l'empreinte magnétique du magma. Une empreinte qui va s'incruster dans la roche lors de la cristallisation des laves. D'ailleurs, il faudrait parler d'empreinte au pluriel, car le magnétisme terrestre a connu différentes polarités au fil des millénaires. Parfois même des polarités inversées. Ce serait ce millefeuille de plusieurs empreintes magnétiques opposées qui provoquerait des perturbations. La marine américaine a même réalisé une étude sur le sujet intitulée « Projet magnétisme, étude sur la gravitation électromagnétique et les perturbations atmosphériques ».
Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, j'ai passé ma vie à étudier les mythes de l'océan, toutes les légendes et malédictions. Et je sais qu'on ne revoit pas toujours les navires qui font voile vers le triangle.
Capitaine, ce marin n'a pas toute sa tête.
Laissons à présent les influences magnétiques de côté pour évoquer la piste de l'explosion de poches de méthane sous-marine. En temps normal, ce méthane, issu de la décomposition de matière organique, se présente sous la forme de glace et repose tranquillement au fond des océans. Mais à cause de tremblements de terre ou bien encore de variations de température, même minimes, le méthane peut tout à coup remonter spontanément à la surface, de quoi provoquer une perte de flottabilité et faire couler à pic un navire ou encore perturber un avion survolant le phénomène.
Regardez l'écran radar, commandant. La température de l'eau a baissé de 5 degrés. Et même le baromètre s'affole complètement. Au lieu de chuter à la verticale, il grimpe en flèche.
C'est Charles Berlitz qui, en 1984, évoque dans son best-seller « L'Atlantide retrouvée » cette hypothèse géologique que l'on appellera par la suite les flatulences océaniques. Seul problème, le triangle des Bermudes n'est pas une zone à fort risque et la probabilité qu'un bateau se trouve juste au beau milieu d'un dégazage de méthane est quasi nulle. En tout cas, cette possibilité ne peut être la cause des centaines de disparitions répertoriées depuis le début du 19e siècle. Cependant, voici une observation étrange que j'aimerais avec vous partager. L'aviateur Robert Durand survole le 11 avril 1963 la fosse de Porto Rico, un gouffre de 280 km de long et d'une profondeur moyenne de 8400 mètres. Soudain, il observe une énorme masse d'eau se soulever dans les airs pour former un dôme qu'il décrira comme un immense chou-fleur. et si c'était justement une poche de méthane qui venait de remonter à la surface.
Commandant, les transmissions ont des problèmes avec les appareils rentrants.
Quel problème ?
Des interférences dues au grain, commandant.
Appelez le météo.
À vos ordres.
Journée ensoleillée et sans nuages.
Dans le triangle des Bermudes, comme ailleurs, les navigateurs de tous horizons doivent se méfier des dangers cachés sous la surface de l'eau. Mais chaque marin aguerri le sait, le plus grand danger, c'est la météo, et le triangle des Bermudes s'y connaît bien en matière de temps instable.
C'est quoi cette merde ? On dirait que le vent est tombé.
Ouais, c'est le moins que l'on puisse dire.
Le triangle des Bermudes se trouve dans l'océan Atlantique, sous le tropique du Cancer. Ces eaux chaudes sont propices à l'apparition subite de tempêtes et d'orages.
Tu trouvais que c'était prévu ?
De juin à novembre, ces tempêtes peuvent dégénérer en ouragans. La vapeur d'eau en provenance de l'océan se condense en altitude et forme une masse de nuages tournoyantes qui gagnent en puissance à mesure qu'elles se décalent vers l'ouest. La plupart de ces tempêtes suivent une trajectoire bien identifiée, surnommée l'allée des ouragans. Les tempêtes traversent, entre autres, le triangle des Bermudes. Porto Rico, les Bahamas et la Floride se retrouvent très souvent sur leur chemin. Quand elles atteignent le triangle des Bermudes, les tempêtes peuvent faire jusqu'à 1600 km de diamètre, avec des vents atteignant 240 km/h. N'importe quel navire se retrouvant piégé dans l'un de ces monstres météorologiques se ferait balloter à la surface des eaux comme une vulgaire coquille de noix. Il aurait une chance inouïe de ne pas finir sur le plancher océanique.
Triangle à garde-côte, à vous. Triangle à garde-côte, à vous.
Garde-côte, à vous.
Le vent est passé de 7 nœuds au zéro absolu en un instant. Vous voyez quelque chose ? À vous.
Non, je ne vois rien sur l'écran. À vous.
On a un énorme nuage qui arrive sur nous. Il est chargé d'électricité. À vous.
C'est certain, il ne fait pas bon se mesurer à une tempête. Les naufrages causés par les ouragans sont fréquents, mais ils n'ont rien de mystérieux. Ce qu'il est, en revanche, ce sont les bateaux coulés par des vents dignes d'un ouragan, alors qu'aucun cumulonimbus n'obscurcit l'horizon. Ces rafales qui semblent sorties de nulle part sont bien connues des marins. Ils appellent ça le grain blanc. C'est un vent violent et soudain, sans pluie ni nuages. Pendant des siècles, les météorologues ont cru que le grain blanc faisait partie du folklore, une sorte de légende que se racontent les matelots du monde entier, mais sans réel fondement.
Hé, viens voir cette cellule orageuse. Elle est énorme.
Le grain blanc est en ce sens comme la matière noire ou l'orgasme féminin. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas une chose qu'elle n'existe pas. Maintenant qu'on sait expliquer le phénomène, les météorologues ont dû se rendre à l'évidence. Les grains blancs existent. Ils se forment quand un nuage de pluie passe au-dessus d'une zone d'air sec et chaud. En tombant, la pluie refroidit brutalement l'air autour d'elle. L'air chargé en humidité devient plus lourd, il chute brutalement et se propage à la surface de l'océan sous forme d'un puissant tourbillon. C'est le fameux grain blanc. Ces coups de vent frappent sans que personne ne s'y attende. Ils peuvent atteindre jusqu'à 100 km/h, ce qui est suffisamment rapide pour faire chavirer un navire.
On peut rentrer au port même s'il n'y a pas de vent.
Oui, 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 on a un moteur, c'est pas un problème. Seulement, c'est bizarre.
Les voiliers sont tout particulièrement vulnérables au grain blanc, car ils s'engouffrent dans les voiles sans que l'équipage n'ait eu le temps d'agir et peut coucher le bateau. Les petits avions légers sont eux aussi susceptibles de se faire malmener lors d'une rencontre avec un grain blanc.
Vite, descendez ! Prenez les gilets de sauvetage !
Un autre danger, plus sournois encore, guette les bateaux qui s'aventurent dans le triangle des Bermudes. Ce sont les vagues scélérates. Ces vagues hors du commun ont été repérées dans plusieurs océans du globe. Ce sont de gigantesques murs d'eau sortis de nulle part, capables d'engloutir les navires sur leur passage. Les vagues scélérates alimentent elles aussi les légendes de marins depuis des siècles, mais ce n'est que récemment qu'on a pu les observer grâce aux satellites. Le docteur Simon Boxall, notamment, du Centre national d'océanographie du Royaume-Uni, a ainsi pu détecter et mesurer des vagues scélérates. Elles font parfois jusqu'à 30 mètres de haut. Le triangle des Bermudes est agité par des conditions météorologiques extrêmes. Les eaux de l'Atlantique Nord, les tempêtes équatoriales, les ouragans, les orages en provenance du golfe du Mexique, le relief accidenté, la présence d'îles et de courants, tous ces éléments créent une mer instable et agitée qui favorise l'apparition des vagues scélérates. D'après le docteur Boxall, si une tempête se produit dans une zone assez étendue, les vagues scélérates peuvent représenter jusqu'à une vague sur 500. Elles sont donc rares, mais elles existent et elles sont suffisamment puissantes pour percer ou tordre la coque des navires.
Des avions, des navires, des petits bateaux, de simples barques. Et sans laisser aucune trace.
Les vagues scélérates sont les principales suspects dans la disparition de l'USS Cyclops. À l'université de Plymouth, dans le sud de l'Angleterre, on a tenté de reproduire en bassin les conditions océaniques particulières du triangle des Bermudes. Lors de la simulation, les scientifiques utilisent une maquette à l'échelle du navire. Et lui envoie d'abord l'équivalent d'une vague de 8 mètres. À cette amplitude, le navire reste stable. Les scientifiques simulent ensuite la rencontre de deux fronts orageux, pendant laquelle les interférences créent des vagues de 16 mètres. Au passage de ces vagues scélérates, le navire chavire. Il se retourne, il prend l'eau et il coule à pic au fond du bassin. Si c'est réellement ce qui s'est passé, un tel naufrage se produirait si rapidement qu'il ne resterait aucune trace ni du bateau, ni de l'équipage. Et comme l'USS Cyclops a été localisé pour la dernière fois au large de Porto Rico, son épave peut avoir sombré au fond de la fosse du même nom, ce qui fait qu'on ne l'aurait jamais retrouvé malgré les intenses recherches.
On appelle cet endroit le triangle du diable depuis déjà des centaines d'années. Les indigènes l'appelaient El Lugar del Diablo, ça veut dire l'endroit du diable. De nombreuses personnes ont disparu dans ces lieux.
La météo chaotique du triangle des Bermudes semble pouvoir expliquer un certain nombre de disparitions soi-disant mystérieuses. Pourtant, certains ne sont pas convaincus par cette version des faits et préfèrent mettre en avant un autre genre de théorie.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Je ne sais pas, ça a l'air d'être cyclique. Pendant un tour, c'est là, et au suivant, c'est dégagé. Je balaie, c'est là. Je rebalaise, c'est parti. Jamais vu une chose pareille.
Hormis l'erreur humaine, qui de par son caractère évident ne nécessite pas la moindre argumentation ou critique, quelle autre théorie ou explication pourrait soutenir la thèse des disparitions à répétition dans le triangle des Bermudes ? Eh bien, dès la disparition du vol 19, une hypothèse aussi étonnante que déroutante va se propager dans la presse et le monde de l'édition. Et s'il y avait des forces invisibles ou paranormales à l'œuvre dans le secteur des Bahamas ?
Parapsychologie ?
Excusez-moi, commandant, mais nous devons aussi considérer qu'il peut y avoir une autre possibilité.
Laquelle ?
La possibilité que tout ce qui se passe soit la réalité.
Outre le récit stupéfiant de Bruce Gernon, il existe d'autres témoins qui ont bravé la peur du ridicule pour raconter leur étrange expérience au cœur du triangle des Bermudes. Des témoignages qui soulèvent de nombreuses questions.
C'est ridicule.
Peut-être.
Pourtant, nous avons un certain nombre de preuves à l'appui. Il ne faut pas barrer d'un trait de plume une explication sous prétexte qu'elle n'a pas l'air de plaire.
Frank Flynn est un agent immobilier, mais son premier métier était garde-côte. À cette époque, il naviguait à bord du bateau W333. C'est très précisément à son bord que le 8 août 1956, il va vivre une expérience extraordinaire. Dans sa déclaration, faite en 1977 à Alan Lansburg, producteur de télévision et écrivain, il raconte avec moult détails cette nuit qui a changé sa vie. C'était donc pendant l'été 1956. C'est d'ailleurs la première fois qu'il naviguait dans le triangle des Bermudes. Le ciel était clair, la mer était plate. À 1h30 du matin, il observe au radar une ligne continue à environ 45 km de distance. L'équipage est un peu inquiet car cela ressemble à une masse terrestre, comme une sorte d'île. Mais après vérification, les instruments de bord indiquent que le bateau se situe à plus de 260 km des côtes. Par curiosité, le W333 met le cap sur cette apparition mystérieuse. Il est 3h du matin quand le bateau s'approche doucement, mais sûrement de sa cible. Frank Flynn braque alors un projecteur sur la masse noire et remarque que le flux lumineux ne transperce pas l'objet, mais le reflète.
Hello !
Il semble donc solide. De plus en plus intrigué, le bateau des gardes-côtes se rapproche avec prudence de cette masse obscure qui, chose étrange, n'offre aucune résistance lorsque la coque vient l'effleurer.
Y a quelqu'un ?
L'ordre est donné alors de tenter d'y pénétrer. L'équipage s'enfonce dans une nuit noire où la visibilité devient quasi nulle. En salle des machines, on constate alors une baisse soudaine et inexpliquée de la puissance du moteur. À ce rythme, le bateau sera dans quelques minutes complètement immobilisé.
Écoute-moi, je ne sais pas où est passé l'équipage, mais apparemment il y a quelqu'un sur ce bateau. Maintenant, on peut peut-être nous faire croire le contraire, mais pourquoi ? Alors on va monter sur le pont, trouver le capitaine et rentrer chez nous.
Là, ça a bougé.
Mais...
Attends !
Par mesure de sécurité, par peur sûrement aussi, Franck décide de sortir de la masse et le moteur retrouve à nouveau tout son souffle. Aujourd'hui, personne n'a été en mesure d'expliquer ce que Frank Flynn a rencontré.
Certaines forces ne commencent que maintenant à être réellement étudiées et comprises. J'entends par la science, non la superstition, ce qu'on appelle les trous noirs, l'antimatière, l'espace courbe. Ce sont des notions aussi insolites que l'électricité au Moyen-Âge ou que ce bâtiment en pleine guerre de 40.
Et il n'y a pas qu'au siècle dernier que des aviateurs ou des marins ont vécu des expériences troublantes dans le triangle du diable. Dans l'émission télévisée « Retour dans le triangle des Bermudes » diffusée sur le réseau câblé TLC, c'est au tour de Paul Vence de raconter son histoire bizarre.
Ouais. Les hommes attendent une explication eux aussi. Il nous faut une vision plus nette de tout ceci.
Nous sommes le 26 juin 2001. Paul, un Américain de 50 ans, est à bord de son voilier, le Rare Form, au large de West Palm Beach, avec son ami Doug Gerdon. Ils viennent de quitter la Floride pour rejoindre les Bahamas. À la tombée de la nuit, Paul aperçoit quelque chose flotter au-dessus de sa tête. C'est une lumière pâle, peut-être celle d'un avion. Puis, étrangement, cette lumière se rapproche de l'embarcation à environ 800 mètres d'altitude, ce qui fait penser à Paul que c'est peut-être un hélicoptère. C'est alors qu'une brume tournoyante se développe autour de la lueur qui semble gagner en intensité. À ce moment précis, les moteurs du voilier donnent des signes inquiétants de faiblesse. En un instant, la source lumineuse plonge dans le brouillard, puis tout se dissipe, comme par magie. Ce qui laisse à nouveau d'ailleurs la possibilité à nos deux amis de pouvoir contempler le ciel étoilé de la mer des Sargasses. Une fois de plus, personne n'est en mesure de donner une explication rationnelle à ce qu'ont vécu Paul Vence et Doug Gerdon pendant cette soirée étrange du 26 juin 2001. Paul explique dans les médias qu'il a bien tenté de filmer le phénomène lumineux, mais il y avait beaucoup trop de tangage. Cependant, une reconstitution du phénomène observé est visible sur YouTube. Elle est basée sur les détails donnés par les témoins oculaires.
Je vais faire quelque chose pour toi. Je ne parlerai jamais de ça à personne.
Ces quelques témoignages n'infirment et ne confirment rien. Ce sont juste des récits de vie, des expériences troublantes. Et rien ne permet de dire aujourd'hui qu'il y a bel et bien, d'un point de vue scientifique, rationnel, des forces extraterrestres, des énergies invisibles, des failles spatio-temporelles qui causent régulièrement des naufrages et des disparitions spontanées dans la région du triangle des Bermudes. Par contre, il y a clairement des événements que l'on n'est pas toujours en mesure d'expliquer. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'explication qu'il y a forcément une intervention surnaturelle. Ou alors, si elles existent, nous n'avons pas encore les moyens nécessaires pour les étudier et prouver de façon irréfutable leur présence. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que sur la mer et dans les airs, plane dans le triangle des Bermudes une atmosphère de danger et de mystère qui depuis des décennies alimente les débats entre croyances et méfiances, entre les expérienceurs et les démystificateurs.
Je crois que tout va se reproduire. Le voilier, le triangle, tout va se reproduire. Accroche-toi, on va s'échapper de cet enfer toutes les deux. On retournera sur le voilier et on s'échappera.
C'est en tout cas la preuve qu'il se passe bel et bien quelque chose dans le triangle des Bermudes et en notre fort intérieur quand on évoque ce sujet. Car si ce n'était pas le cas, il aurait lui aussi définitivement disparu dans les profondeurs oubliées de l'histoire de l'humanité.
Il y a trop longtemps que nous sommes prisonniers de ce triangle maudit, condamnés à l'enfer sur Terre.
Blanche, couleur 3.
Ce que nous vous proposons à présent, Anne et moi, et sans aucune concertation préalable, c'est de vous livrer notre sentiment personnel sur le mystère du triangle des Bermudes, de vous dire ce qui nous a interpellés, questionnés pendant nos lectures et nos recherches. En ce qui me concerne, ce qui m'a tout de suite impressionné, c'est la longue liste des disparitions, naufrages, amérissages forcés qui se sont déroulés dans cette région. C'est vrai que pour plein de raisons différentes, cet endroit est un véritable cimetière d'épaves. Les sceptiques vous rétorqueront à ce sujet que d'après les compagnies d'assurance, il n'y a pas plus de disparitions dans le triangle des Bermudes que sur les autres océans et mers du monde. Mais comme le souligne Yves Lignon, maître de conférence au département mathématique de l'université de Toulouse Le Mirail, les compagnies d'assurance ne prennent pas en compte dans leurs statistiques les bateaux de plaisance et les avions. Disons que je perçois le triangle des Bermudes un peu comme une entité à deux visages. D'un côté, c'est un endroit paradisiaque, sable fin, palmiers, eau turquoise, et de l'autre, un piège mortel. Ça me rappelle d'ailleurs un petit peu l'histoire, pour rester dans le domaine aquatique, des sirènes, tant redoutées par les marins, à la fois très attirantes mais dangereuses. Je trouve au final que les histoires les plus intéressantes sont celles où il y a des survivants pour nous raconter leur expérience. Ce sont aussi les plus fascinantes, comme le cas de Bruce Gernon en 1970 ou bien encore Paul Vance en juin 2001. Autre chose étrange qui m'a surpris pendant mes recherches sur Internet, presque encore plus étrange que les récits que nous venons de vous raconter, c'est que j'ai trouvé très peu d'histoires totalement inventées et à la limite du grotesque qui se serait déroulé dans le triangle des Bermudes, du genre fake news ou légende urbaine. Je pensais qu'il y en aurait tout un tas, autant en tout cas que d'épaves dans les fonds marins de la région, et en fait je n'ai pas trouvé beaucoup de récits à ce sujet. Un seul peut-être, la disparition qui semble totalement fictive, d'un bateau appelé Bella, une goélette anglaise, qui aurait disparu en 1854 dans le triangle des Bermudes. Le problème, c'est qu'il y a bien un bateau de ce nom qui a été construit en 1852 à Liverpool, mais il n'a jamais fait naufrage, d'après l'auteur Larry Kusch, qui a enquêté sur cette histoire dans son livre « Le mystère du triangle des Bermudes résolu ». Je me suis aussi intéressé dans mes recherches aux autres triangles mystérieux dans le monde. Eh bien, à mon grand étonnement, on en trouve un peu partout, et même beaucoup. Il y a par exemple la mer du Diable ou Triangle du Dragon qui se trouve au sud du Japon. Une région traversée par des phénomènes climatiques hors normes, typhons, brouillards, tempêtes, tourbillons, sans oublier séismes et tsunamis. Charles Berlitz écrit d'ailleurs dans son livre Le Triangle des Bermudes que les Japonais ont perdu 5 navires militaires entre 1952 et 1954 dans cette zone. Cela va peut-être aussi vous étonner, mais il existe bel et bien des triangles terrestres, comme le triangle de la Burle qui se trouve en France dans les Cévennes. Un triangle évoqué dans le documentaire La France des Mystères et dans le livre Le Triangle de la Burle, Bermudes en Cévennes de Jean Payard.
En ces temps obscurs, la région est brusquement le théâtre de faits divers à répétition. On raconte même qu'un brigand vêtu de peau de bête détrousse les voyageurs qui traversent la vallée de la Vézère. Dans le même temps, des ecclésiastiques sont assassinés sans raison et de jeunes bergères disparaissent curieusement.
Il existe un autre triangle dont je voulais vous parler. C'est le triangle du Nevada, un triangle qui se trouve sur la côte ouest des États-Unis. On estime qu'environ 2000 avions se sont crashés dans ce désert depuis la Seconde Guerre mondiale. On a beaucoup reparlé de cette no-go zone le 3 septembre 2007 avec la disparition mystérieuse du milliardaire Steve Fossett. C'est seulement décembre 2008 qu'on retrouve des traces de son avion sur le flanc d'une montagne à plus de 3000 mètres d'altitude, mais pas sa boîte noire. On suppose aujourd'hui que ce sont des vents violents et soudains qui ont poussé l'avion contre la montagne.
Steve Fossett was a skilled pilot who broke more than 100 aviation records around the world. But he crashed flying his airplane in the Sierra Nevada Mountains.
Dernière chose, je suis un petit peu mal à l'aise avec tous ces articles qui affirment en gros titre, je cite, le mystère du triangle des Bermudes enfin résolu, comme si tout à coup on avait, avec une seule explication, classé tout le dossier. Du genre, les scientifiques viennent enfin d'élucider le mystère du triangle des Bermudes et l'explication est très simple au final. Et en fait, on vous parle uniquement dans l'article de ces fameuses poches de méthane, comme si toutes les disparitions était due à ce phénomène. Il y a beau avoir le mot scientifique dans le titre, ça fait pas très sérieux et ça sonne creux. Je pense que le triangle des Bermudes, c'est plutôt du cas par cas. Alors ça demande, c'est vrai, plus de réflexion, plus d'investigation, mais cette complexité est au final bel et bien à l'image des océans, composites et inconstant. Je suis vraiment méfiant de tous ces raccourcis faciles, ces solutions en prêt-à-penser proposées. C'est souvent une approche partielle et réductrice de notre réalité qui a une action limitante sur notre façon d'appréhender et de comprendre le monde. Moi, j'aime bien avoir tout le trousseau de clés. Ça ouvre quand même plus de portes. Et toi, Anne, de ton côté, comment se sont déroulées tes vacances studieuses dans les Bermudes ?
Eh bien, Mika, comme très souvent à la fin d'une de nos enquêtes, moi j'ai l'impression d'être encore moins avancée après qu'avant. J'ai passé plusieurs jours à lire des témoignages, à regarder des documentaires, à écouter des émissions à propos des supposés mystères qui se produisent dans le Triangle des Bermudes, et j'avoue que je ne sais toujours pas vraiment quoi en penser. Si on se place d'un point de vue purement rationnel, c'est normal et logique que des bateaux et des avions disparaissent dans cette zone. On a affaire à un couloir de navigation les plus fréquentés au monde, dans lequel croisent chaque jour des cargos, des bateaux de croisière, des chalutiers, des bateaux de pêche et des bateaux de plaisance. Si on ajoute à ça les récifs, les fonds marins pleins de pièges et les conditions météo imprévisibles, ça paraît normal que certains bateaux et certains avions disparaissent de temps à autre. Il semblerait d'ailleurs que statistiquement, il n'y ait pas plus d'accidents dans le Triangle des Bermudes qu'ailleurs sur le globe, même si j'avoue que je n'ai pas pu mettre la main sur ces données pour les vérifier moi-même. Malgré tout, ça n'explique pas pourquoi la plupart des disparus n'ont pas envoyé de message de détresse. Ça n'explique pas non plus le phénomène de dérèglement des instruments de navigation rapporté par plusieurs survivants. On n'est donc pas beaucoup plus avancé. Tout ça pose finalement la question suivante, en tout cas à moi. Pourquoi tant de battages autour de cette zone en particulier ? Sans doute parce que l'âme humaine adore les mystères, les complots et les phénomènes inexpliqués. C'est plus grisant de se dire qu'un avion a été avalé par un brouillard bizarre que d'imaginer la mort tragique d'un pilote qui s'est échoué en mer à cause d'une tempête. Autre point qui mérite d'être souligné, la grande période de popularité du Triangle des Bermudes, ce sont les années 70 jusqu'au début des années 80. À ce moment-là, le paranormal est très à la mode. C'est l'époque de la sortie des films comme L'Exorciste et du livre Amityville dont on vous a déjà parlé ici même. En ce qui concerne le Triangle des Bermudes, c'est en 74 que sort le livre de Charles Berlitz, qui devient d'ailleurs un best-seller immédiat. C'est aussi à cette période-là qu'on recueille les témoignages autour d'événements inexpliqués, comme celui de Bruce Gernon. Est-ce que ça veut dire qu'il aurait inventé tout ça pour attirer l'attention sur lui en profitant de la mode ? Bah, pas forcément. Moi, j'avais l'impression qu'il était plutôt sincère dans ce qu'il racontait. Mais est-ce qu'il n'aurait pas interprété ce qui lui est arrivé, dont une partie peut d'ailleurs rester mystérieuse ? Est-ce qu'il n'aurait pas interprété certains événements selon le prisme du paranormal ? Ça me paraît plus plausible. D'ailleurs, on constate que maintenant que l'engouement pour le paranormal est un peu moins mainstream, eh bien on rapporte finalement beaucoup moins de témoignages d'événements bizarres et de disparitions inexpliquées. Ou alors, dernière hypothèse, il y a bien des forces mystérieuses à l'œuvre dans le Triangle des Bermudes, mais on ne sait pas encore les identifier. C'est un peu comme la gravité. En fait, avant que Newton ne la nomme, on voyait ses effets sans pouvoir l'expliquer. Et bien là, peut-être que c'est pareil, et que dans quelques temps, de nouvelles découvertes scientifiques vont nous aider à percer le mystère, ou les mystères qui restent dans le Triangle des Bermudes.
Certaines forces ne commencent que maintenant à être réellement étudiées et comprises. J'entends par la science, non la superstition, ce qu'on appelle les trous noirs, l'antimatière, l'espace courbe.
Si vous souhaitez prolonger votre nuit blanche dans le Triangle des Bermudes, voici quelques références à regarder, à lire, à écouter. Pour le divertissement sur grand écran, vous avez le film Triangle, sorti en 2009 et réalisé par Christopher Smith. Voici l'histoire. Un groupe d'amis part explorer le Triangle des Bermudes à bord d'un voilier. Après avoir essuyé une tempête, le bateau part à la dérive. Ils trouvent alors refuge sur un bateau fantôme où le temps semble s'être arrêté.
Je sentais qu'il y avait un truc qui clochait. Si je vous avais empêché de monter sur ce bateau, vous seriez tous en vie.
Il y a aussi Triangle maudit, sorti en 2001 avec Luc Perry. Le scénario est quasiment le même. Des amis, sur un vieux bateau de pêche, entrent dans un brouillard épais dans lequel ils trouvent un paquebot fantôme qu'ils décident d'explorer. Plus ancien, le Triangle des Bermudes, sorti en 1978, et puis aussi le Triangle du Diable, produit par la chaîne ABC.
Les indigènes l'appelaient El Lugar del Diablo, ça veut dire l'endroit du diable. De nombreuses personnes ont disparu dans ces lieux.
Concernant les documentaires, la liste est longue. Vous trouverez par exemple l'interview de l'aviateur Bruce Gernon dont nous avons parlé et qui semble avoir vécu en 1970 une expérience de distorsion spatiale et temporelle dans Le Triangle des Bermudes, les secrets engloutis et Mystérieux phénomène, le Triangle des Bermudes.
Il y avait une couverture nuageuse vers 1500 pieds. Je suis monté à 1000 pieds. et j'ai aligné l'appareil sur notre cap magnétique, vers les îles Bimini.
Concernant le rayon livre, il y a de quoi vous occuper jusqu'à la prochaine pleine lune. Voici donc quelques références parmi tant d'autres. Le premier livre spécifiquement consacré au triangle est un ouvrage auto-publié de John Wallace Spencer, Limbo of the Lost, sorti en 1969 et disponible uniquement en anglais. En 1974, sort un best-seller intitulé tout simplement « Le triangle des Bermudes ». Son auteur Charles Berlitz suggère que quelque chose d'étrange se passe dans cette zone. Ce livre s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Un an plus tard, on trouve dans la vitrine des libraires « Le mystère du triangle des Bermudes résolu » de Larry Kusch. Écrivain et bibliothécaire à l'Arizona State University, Kusch passe en revue tous les incidents survenus dans la région entre 1840 et 1973. Sa conclusion est sans appel. Le triangle des Bermudes est un mythe, une légende. Voici ce qu'il dit.
La légende du triangle des Bermudes est un mystère fabriqué, perpétué par des écrivains qui se sont servis, à leur insu, d'idées fausses, d'un raisonnement erroné et du sensationnalisme.
Enfin, plus récent et en français, Le triangle des Bermudes et autres histoires extraordinaires de Jean-Claude Bourret et Bernard Marc, sorti en 2017 aux éditions L'Archipel. C'est un condensé des histoires que l'on connaît déjà, donc rien de nouveau sous le soleil des Bermudes.
Nuit blanche, couleur 3.
Et c'est ici que l'on quitte éprouvé, mais vivant, ça c'est la bonne nouvelle, le triangle des Bermudes. Merci d'avoir été nos compagnons de route, maritime et aérienne. Prochaine nuit blanche. Prochaine pleine lune, ce sera le dimanche 13 octobre 2019. À la narration de cette nuit blanche, Anne Flamand, Mickaël Marquet, Franck Pourpri à la réalisation.
Pour écouter ou réécouter la saison 1 de Nuit Blanche, rendez-vous sur votre application de podcast préférée iOS ou Android, sur l'application de Couleur 3 rubrique émission, sur Deezer et Spotify à la rubrique podcast, sur SoundCloud, sur Apple Podcast, sur RTS.ch rubrique radio podcast originaux et sur la chaîne YouTube de Couleur 3 avec une playlist dédiée.
D'ailleurs, on vous invite à prendre la parole et le clavier sur YouTube dans la section commentaires si vous souhaitez nous poser des questions, avoir des précisions, rectifier une information ou nous proposer de nouveaux sujets, voire même nous demander un gros câlin pour calmer vos terreurs nocturnes.
Encore merci pour votre écoute attentive et votre fidélité.
Et rendez-vous le 13 octobre pour une autre nuit blanche, une autre histoire vraie.
Une histoire à écouter de préférence avec la lumière allumée, parce qu'on ne sait jamais.